Goujon et moi, nous restâmes amis et camarades de Payot jusque dans l'année 1712, au mois de juillet, qu'il se sauva des galères. La manière dont il s'y prit et qu'il exécuta heureusement mérite la curiosité du lecteur. J'ai déjà dit que Goujon avait de puissants parents et amis qui s'intéressaient à sa disgrâce et sollicitaient sans relâche pour lui procurer sa délivrance. Monsieur son père, vénérable vieillard, fut se jeter aux pieds du roi avec ses deux autres fils, implorant la clémence de sa majesté pour celui qui était en galère. Il exprima avec tant de force la tendresse d'un père pour ses enfants, en promettant à ce monarque d'aller, tout vieux qu'il était, à la tête de ses trois fils, répandre gaiement son sang pour son service. Il parla d'une façon si touchante et si pathétique que tous ceux qui étaient présents en furent attendris jusqu'aux larmes. Il ne put cependant fléchir le roi qui refusa constamment la grâce de Goujon, ce qui fait bien voir que les injures qu'on l'on fait aux grands sont des taches pénétrantes qui ne s'effacent pas aisément. Malgré le mauvais succès de cette dernière démarche, on essaya cependant encore une nouvelle tentative pour la liberté de Goujon. L'on fit agir monsieur le maréchal de Noailles. Il revenait du siège de Gironde dont il s'était rendu le maître avec beaucoup de gloire. Le roi, à qui il fit rendre compte de sa conduite, l'approuva d'une manière fort gracieuse. L'occasion était favorable pour demander et obtenir quelques faveurs de sa majesté. Cependant, M. de Noailles se borna à demander la grâce de Goujon. Le roi lui dit qu'il était fâché de la lui refuser et qu'il avait juré de ne l'accorder jamais. Goujon, qui en fut informé, vit bien qu'il ne pourrait obtenir sa délivrance tant que le roi vivrait et ne se consolait que dans l'espérance que sa mort ou celle du roi la délivrerait de cet esclavage. Dans un si fâcheux état, il ne laissait pas que de jouir de quelques agréments. Son père lui envoyait ce qui lui était nécessaire et ses amis de son régiment, tant officiers que soldats, le venaient souvent visiter. Car tout le monde peut entrer dans les galères. Le comite n'en refuse l'entrée à personne. Comme il fait vendre du vin à son profit et que tous ceux qui viennent sur les galères pour voir leurs connaissances y boivent ordinairement bouteille, il est de son intérêt d'y laisser entrer tous ceux qui se présentent. Vers le mois de mai de l'année 1712, un sergent des grenadiers du régiment d'Aubesson, pour lors en garnison à Newport, vint voir Goujon, à qui il était fort attaché. Après plusieurs complaintes sur son esclavage et sur le peu d'espérance d'en sortir, ce sergent lui parla ainsi. « Je viens exprès ici, monsieur, de la part de vos amis du régiment, pour vous proposer si moi et quatre grenadiers, gens de cœur et à toute épreuve, pouvons vous procurer votre liberté. » Soit à force ouverte ou autrement, vous n'avez qu'à nous indiquer le moyen de vous servir, et vous connaîtrez que nous sommes tous cinq à votre disposition au péril de notre vie. On est informé au régiment que vous avez souvent occasion d'aller en ville. Si vous croyez que nous puissions vous y enlever, je vous proteste qu'aucun danger ne pourra nous empêcher de le faire. Faites vos réflexions sur ce que j'ai l'honneur de vous dire, et comptez sur notre discrétion et notre courage. Il serait inutile que vous me demandassiez qui est celui où ceux qui nous mettent en œuvre, vous pouvez le deviner sans que je vous le dise. En un mot, continua-t-il, je viendrai de temps en temps prendre langue et consulter avec vous sur la résolution que vous aurez prise. J'étais présent à cette conversation. Nous étions si intimement liés, Goujon et moi, que nous n'avions rien de caché l'un pour l'autre. Goujon, charmé de la proposition, remercia ce sergent de sa bonne volonté et lui dit qu'une entreprise aussi périlleuse demandait du temps et beaucoup de réflexion. Qu'il y penserait mûrement, afin de ne rien entreprendre qu'il ne fût certain de la réussite, et qu'aussitôt qu'il verrait jour à sortir heureusement de cette affaire, il lui communiquerait ses idées pour prendre ensemble de plus justes mesures s'il était nécessaire. Après cette première conversation, le sergent prit congé de nous, et dès ce moment, Goujon n'eut plus autre chose dans l'esprit que de chercher le moyen de se sauver. La chose n'était pas facile, il est vrai qu'il avait souvent l'occasion d'aller en ville à cause de l'emploi qu'il avait de distribuer les vivres à la chourme. Mais il n'y allait jamais seul. Et lorsqu'il était obligé de sortir, soit pour aller chez le commissaire des vivres ou chez le magasinier, l'argousin l'enchaînait avec un turc qui était dans ses intérêts et lui donnait pour garde un nommé Guillaume qui était fort rigide et qui l'accompagnait ordinairement. L'argousin ne se fiant à aucun autre pour la garde de Goujon. Il faut remarquer qu'il y avait une défense générale de laisser entrer dans les maisons publiques aucun couple de forçats qui allaient en ville pour leurs affaires, soit pour acheter ou pour vendre leurs ouvrages, à peine de 3 ans de galère pour le garde et de 1000 écus d'amende pour ceux qui les laisseraient entrer chez eux. Le privilège qu'avait Goujon d'aller en ville ne pouvait donc lui servir pour l'exécution de son dessein. Il était impossible de l'enlever dans la rue en plein jour et à la vue d'un grand nombre de soldats et de l'équipage des galères. D'ailleurs, la ville était remplie d'une nombreuse garnison, qui avait partout des corps de garde et des sentinelles. En un mot, la chose ne paraissait pas praticable. Il n'y avait qu'un seul moyen pour réussir, qui était d'apprivoiser le garde à force de libéralité et de faire en sorte d'obtenir de lui la permission d'entrer dans un cabaret. Ce fut celui dont se servit Goujon, qui était persuadé que, s'il pouvait obtenir de son garde cette grâce pour une seule fois, il viendrait facilement à bout de son entreprise. Ayant formé ce projet, il écrivit à son père pour le prier de lui faire tenir une bonne somme d'argent dont il avait besoin pour une affaire de conséquence. Le bonhomme ne manqua pas de la lui envoyer, et il ne l'eut pas plus tôt reçue qu'il commença à faire jouer ses batteries. Un jour du mois de juin, qu'il faisait fort chaud, Goujon fut en ville avec Guillaume, son garde ordinaire. Après avoir fait plusieurs messages relatifs à son emploi, comme il passait dans une petite rue écartée, devant un cabaret à bière et à eau-de-vie, Goujon, voyant que son garde pâmait de soif, fit aussi l'altéré, et le pria de faire venir un pot de bière devant la porte du cabaret afin de se rafraîchir. Guillaume, qui ne voyait là rien de contraire à la défense, l'accepta volontiers. La cabaretière leur porta un pot de bière dans la rue, et s'étant aperçue que la fatigue leur faisait chercher de quoi s'asseoir, elle leur dit « Mes amis, voilà un banc dans mon vestibule, servez-vous-en. Et même entrer sous la porte, ou étant visible comme dans la rue, on n'aura rien à me dire par rapport à la défense. » Ils ne suffirent pas beaucoup prier. Goujon y régala son garde et le Turc à merveille. Et après y avoir passé 2 ou 3 heures, il demanda à la cabaretière à combien montait l'écho. Elle lui dit qu'il se montait à 30 sous. « Tenez, ma bonne, dit-il, voilà un écu de 5 livres. Je vous fais présent du reste. » Cette femme, qui n'était pas fort opulente, se sentit si obligée de cette libéralité qu'elle lui offrit de le laisser entrer dans sa maison lorsqu'il lui plairait. « Non, lui dit Goujon, je ne veux pas vous exposer non plus que mon garde. C'est un devoir que je me fais et que je serverai toujours. » Sur cela, ils sortirent pour retourner à la galère. Mais avant d'y arriver, Goujon mit un écu de 5 livres dans la main de Guillaume, par reconnaissance, disait-il, de la permission qu'il lui avait donnée de se rafraîchir à ce cabaret. Guillaume fut si extasié de ce présent qu'il ne savait où il en était. Ses gardes ont de petits gages, et depuis 3 années, on ne les payait pas, ni personne de l'équipage, de sorte que cet écu de 5 livres était un trésor pour lui. Ce qui l'engagea de dire à Goujon que par la suite, il lui donnerait plus de liberté que ci-devant, et qu'en prenant certaines précautions, il n'y aurait aucun danger pour personne. Goujon fut fort content de son coup d'essai, qu'il me raconta dans toutes ses parties et qui lui fit concevoir de grandes espérances. Il ne tarda pas longtemps à retourner en ville. Il sentait combien il lui était nécessaire de se concilier de plus en plus ses gens et de ne pas laisser refroidir leur bonne volonté par une négligence qui aurait pu causer quelques contretemps et rompre ses mesures. Après donc avoir fait les affaires qu'il avait prétextées, ils furent déjeuner à leur cabaret. La femme les fit entrer dans son vestibule et leur donna ce qu'ils avaient besoin, pendant que la servante se tenait en sentinelle à la porte de la rue pour observer s'il ne paraissait pas quelques personnes suspectes. Après le déjeuner, la cabaretière, soit par intérêt ou autrement, leur dit « Mes amis, vous et moi, nous sommes toujours en appréhension que quelqu'un ne vous découvre dans ce vestibule. Il y aura un moyen de nous tirer de cette inquiétude. J'ai, continua-t-elle, une chambre tout à fait au bout de ma maison. Vous pourriez vous y tenir en repos, et lorsque vous voudrez y venir, il n'y aura seulement qu'à observer en sortant ou en entrant, s'il n'y a personne dans la rue qui puisse vous apercevoir. » Goujon, ne voulant pas témoigner la joie qu'il avait de cette proposition, n'y répondait pas. Mais Guillaume, qui, outre l'espérance qu'il avait de venir plus souvent et plus sûrement faire bonne chère, comptait encore sur les générosités de Goujon, dit d'abord que la cabaretière avait fort bien imaginé et qu'il fallait voir la chambre. Elle fut trouvée fort commode. Guillaume, pour sa propre sûreté, et Goujon, pour l'exécution de son dessein, se réunirent facilement pour en faire l'accord. « Je ne prétends pas, dit ce dernier à l'hôtesse, que pour nous obliger, vous y perdiez. Il pourrait arriver que, lorsque nous viendrons ici, votre chambre serait occupée par d'autres personnes qui viennent y dépenser leur argent, et il ne serait pas juste que vous vous privassiez de ce profit. Arrangeons-nous de sorte que nous soyons tous deux contents. Louez-moi cette chambre par mois. Pour lors, elle sera toujours à notre disposition quand nous viendrons chez vous. » Parbleu, dit Guillaume, on voit bien, monsieur Goujon, que vous avez de l'esprit. On ne peut au monde ni rien imaginer de mieux. La cabaretière laissa le louage de la chambre à la discrétion de Goujon qui, toujours libéral, le fixa à 20 livres par mois dont il en paya un d'avance et donna une pareille somme à Guillaume, en lui disant que, puisqu'il courait les mêmes risques que cette femme, il était juste qu'il eût le même profit. Au reste, ajouta Goujon, cet argent que je vous donne à présent ne vous exclut pas de mes libéralités chaque fois que nous ferons la partie de venir ici. Il donna aussi la pièce au Turc, afin qu'il ne jasât pas à l'argousin. Après quoi, ils sortirent pour revenir à la galère, les uns et les autres fort contents des événements de cette journée. Guillaume et Goujon avaient arrêté que le surlendemain, ils iraient faire la dédicace de cette chambre. À cet effet, Guillaume alla au dit cabaret par ordre de Goujon pour y ordonner un bon dîner, et le jour marqué, ils s'y rendirent et se régalèrent parfaitement. Ce manège continua jusqu'à la consommation de l'entreprise, qui arriva vers la fin du mois de juillet, comme je vais le décrire.